Alors, comme Olivier Corten l'a expliqué ce matin, l'objectif de ce colloque est de présenter des cas particuliers. Et dans cette deuxième session, nous allons avoir trois présentations, trois communications sur trois cas différentes, des cas qui concernent des contextes politiques, géographiques différents de ceux que nous avons vus ce matin, avec pour objectif de voir et d'examiner donc la notion, la question de la vérité singulière, vérité symbolique. Je voudrais juste rappeler que donc chaque intervenant dispose de 15 minutes pour la présentation, qu'après les trois présentations, nous aurons une pause de 15 minutes et la pause sera suivie par le débat. Tout d'abord, la discussion des trois communications par Antoine Garapon et Elisabeth Claverie, et puis le débat et la discussion avec le public, l'audience. Sans tarder, je vais tout de suite céder la parole à Patricia Naftali, qui est aspirante FNRS auprès du Centre de droit public et qui travaille de manière générale sur les disparitions forcées, la justice transitionnelle ou transitional justice, les commissions de vérité et réconciliation, et donc qui aujourd'hui nous présentera une communication sur la mobilisation des juges argentins. Patricia, à toi la parole. Merci.
Merci Ramona. Donc le cas que je vais vous présenter concerne la première demande de reconnaissance d'un droit à la vérité sur les disparitions forcées dans le contexte argentin, principalement dans l'affaire Lapaco. Donc il faut savoir qu'entre 1976 et 1983, la technique qui consiste à faire disparaître des corps est systématiquement utilisée par la junte militaire au pouvoir au nom de la lutte, je cite, contre les subversifs, c'est-à-dire contre les guérillas d'extrême gauche. Et vous avez entre 15 000 et 30 000 personnes qui sont soupçonnées d'appartenir à ces mouvements, qui vont être arrêtées, détenues et torturées au secret, puis exécutées sans qu'on puisse retrouver leur corps. Alors, à la chute de la dictature, vous avez un nouveau régime démocratique qui va se mettre en place en 1983, mais ce régime va progressivement adopter plusieurs lois d'amnistie qui vont empêcher la justice de poursuivre les responsables de ces disparitions forcées. Et l'objet de ma présentation, ça va être d'essayer de voir comment, dans ce contexte, l'invention originale d'un droit à la vérité va permettre à la société civile de remobiliser des juges a priori devenus inaccessibles et ainsi relancer un débat politique sur les crimes qui ont été commis sous la dictature. Pour aborder cette question, je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais expliquer le contexte de surgissement de l'affaire brièvement, puis je vais m'intéresser au recours en tant que tel et surtout à la façon dont ce droit à la vérité est construit pour explorer son ambivalence par rapport aux objectifs poursuivis par les requérants. Et enfin, on verra comment les juges saisis de l'affaire vont réagir face à l'invocation inédite d'un droit qui n'a auparavant jamais été soulevé devant un tribunal. Donc pour saisir l'intérêt de l'invention d'un droit à la vérité, il faut d'abord comprendre comment la question des disparus est traitée par le gouvernement démocratique d'Alfonsine après la dictature. Dès le rétablissement de la démocratie, il y a plusieurs mesures qui sont prises pour retrouver les disparus. Notamment, il y a une commission nationale sur la disparition de personnes, la CONADEP, qui est créée en 1983 pour enquêter sur le sort des disparus. Il faut bien s'imaginer qu'à cette époque-là, l'ampleur du phénomène n'est pas vraiment connue. Et cette commission d'enquête va aboutir à un rapport qui va contenir un premier bilan provisoire des disparitions et qui estime le nombre de disparitions à plus ou moins 9 000 et qui va aussi contenir une analyse détaillée des méthodes de répression utilisées par la junte militaire. Mais cette commission, d'un autre côté, n'a pas de pouvoir, enfin, un pouvoir d'enquête limité, puisqu'il s'agit d'un organe extrajudiciaire qui n'a pas le pouvoir de citer des témoins à comparaître. Et donc, cette commission finit par simplement transférer ses dossiers à la justice. Or, dès le départ, le gouvernement en place tente d'imposer au pouvoir judiciaire une certaine interprétation historique des années de répression. Ça va être la théorie dite des deux démons qui impute la responsabilité des crimes commis entre 1976 et 1983 tant aux membres des guérillas d'extrême gauche qu'aux principaux membres des forces armées et de sécurité qui ont essayé de combattre ces guérillas. Et notamment, cette théorie des deux démons est illustrée par le fait qu'il y a un procès sélectif des principaux membres de la junte qui est décrété en même temps que le procès sélectif des principaux membres de guérillas de gauche. Et cette théorie, petit à petit, cette théorie des torts équivalents va être accouplée à une rhétorique de la réconciliation nationale qui va essayer de cadenasser la justice pénale. Tout d'abord, face à l'explosion d'actions judiciaires qui sont menées à l'encontre des anciens responsables militaires, il va y avoir une loi du point final qui va tenter de mettre un terme aux poursuites en imposant aux victimes un délai de 60 jours au-delà desquels toutes les actions pénales sont dites prescrites. Mais ça ne va pas suffire parce que, en fait, la société civile va bien s'organiser et donc face à toujours cette pléthore d'actions judiciaires qui sont portées devant les tribunaux, va y avoir un soulèvement militaire qui va déboucher sur une deuxième loi qui va être prise par le Parlement, dite loi du devoir d'obéissance. Et cette loi accorde une immunité pénale à tous les subordonnés dans les forces de sécurité en présumant de manière irréfragable qu'ils ont agi sous contrainte et qu'ils obéissaient aux ordres. Ce processus d'impunité va être complété sous la deuxième présidence démocratique en 1989 et 1990 par des décrets de grâce qui vont notamment bénéficier aux généraux militaires qui avaient déjà été condamnés dans le premier procès de la junte. Donc voilà un peu rapidement le contexte esquissé. Donc une mise à l'écart de la justice pénale et un gel corrélatif du débat public sur qu'est-ce qui s'est passé pendant l'histoire de la répression. Alors, face à ce blocage, comment des activistes vont s'y prendre pour tenter de réactiver une justice pénale a priori paralysée par des lois équivalentes à des mesures d'amnistie ? En 1995, il va y avoir des anciens militaires qui vont commencer à se confesser et à briser le silence de l'armée. Et il y en a un en particulier dont les aveux vont bouleverser la nation, qui s'appelle Adolfo Silingo, qui était l'ancien chef de la marine, et qui va avouer pour la première fois publiquement que l'armée faisait régulièrement disparaître des milliers de détenus en les jetant vivants dans la mer. À partir de ce moment-là, une ONG locale de défense des droits de l'homme, le Centre d'études légales et sociales, va profiter du retentissement médiatique de ces aveux pour essayer de déplacer dans l'arène judiciaire les confessions des militaires qui ont participé au crime et du coup aussi d'institutionnaliser le débat sur l'histoire de la répression. Et donc deux fondateurs de cette ONG, Emilio Mignone et Carmen Lapaco, qui sont par ailleurs aussi des parents disparus et qui sont du coup à la recherche de leur propre fille, vont saisir la Cour d'appel fédérale de Buenos Aires, qui est compétente en matière pénale, en invoquant pour la toute première fois devant les tribunaux l'existence d'un droit à la vérité. Et ils définissent ce droit à la vérité comme, je cite, « un droit subjectif des familles de disparus à connaître le sort de leurs proches et un droit des peuples à connaître leur histoire passée ». Et donc, les requérants demandent de réouvrir les enquêtes dont cette cour était par ailleurs déjà saisie avant que les lois d'amnistie viennent interrompre les procès, et demandent des informations supplémentaires sur la disparition de leur fille et des autres détenus qui se trouvaient dans les mêmes centres de détention. Alors, comment ce droit à la vérité est construit? Et en quoi sa construction est ambivalente par rapport aux objectifs poursuivis par les requérants? D'un côté, le fait d'inscrire le concept de vérité dans le registre juridique des droits de l'homme, qui est a priori neutre, permet en apparence de dépolitiser la demande de justice des requérants au point où elle semblerait irréfutable. Comment ? Mais en posant en fait la vérité comme fin en soi qui justifierait la poursuite des enquêtes pénales, même si elles ne peuvent pas déboucher à la condamnation des responsables. Et donc vous avez une vérité réclamée qui prétend se limiter à l'établissement du sort des disparus, indépendamment de toute poursuite des responsables. Et donc, en gros, la requête se présente comme une demande de vérité factuelle qui porte sur les victimes et qui serait quasi humanitaire parce que, pour les requérants, il faut qu'une réponse soit donnée aux familles pour faire cesser la torture dans laquelle ils vivent et qui est liée au fait qu'ils vivent dans l'angoisse permanente de ne pas savoir où se trouvent leurs proches, qu'est-ce qui leur est arrivé. Ensuite, si le droit à la vérité est un droit subjectif des familles, c'est parce que la requête articule le droit à la vérité à un droit au deuil. C'est-à-dire que c'est seulement en connaissant le sort final de leurs proches que les familles pourront achever leur processus de deuil et, si jamais la victime est décédée, c'est seulement en récupérant le corps de la personne et pour l'enterrer dignement que les familles pourront accéder au deuil. Ensuite, cette vérité demandée ne peut pas faire de mal puisque la saisine des juges est limitée à la récolte d'informations sur le sort des disparus, c'est-à-dire que l'objet du recours n'est pas d'attaquer les lois d'amnistie en tant que telles, mais seulement de limiter les effets de ces lois d'amnistie sur les familles. Comment, donc, je l'ai dit, en dissociant la recherche de vérité de l'éventuelle punition des responsables. Et donc, on voit comme ça, comment, en disant, nous, tout ce qu'on réclame, c'est seulement la vérité, pas du tout la condamnation, en décidant que l'obligation d'enquête peut avoir pour fin propre de simplement trouver la vérité sur le sort des disparus. On voit comment le droit à la vérité est formulé d'une manière, la manière la moins problématique possible. Mais d'un autre côté, la demande de reconnaissance d'un droit à la vérité peut aussi apparaître comme une demande de justice plus ambiguë qu'on ne croit par rapport aux objectifs qu'elle poursuit. Première ambiguïté, en revendiquant, si vous voulez, la dimension collective d'un droit qui appartiendrait à toute la société, donc je vous rappelle qu'une une partie de la définition proposée par les requérants du droit à la vérité, c'était un droit des peuples à connaître leur histoire passée. En revendiquant cette dimension collective, les requérants remettent directement en cause la théorie des deux démons. La requête avance notamment explicitement la thèse du terrorisme d'État, c'est-à-dire que la violence d'État n'est ni le résultat des excès individuels de certains officiers militaires, ça c'est la thèse de l'armée, c'est ça qu'elle prétend, pas plus que cette violence d'État n'est d'ailleurs une réponse équivalente, n'était une réponse équivalente à la violence des guérillas. Donc les requérants, en avançant la thèse du terrorisme d'État, disent clairement qu'il s'agissait que cette violence d'État était le résultat d'un appareil d'État criminel bien organisé et qui reposait sur des méthodes de répression clandestine. Cette critique de la théorie des deux démons est particulièrement bien reflétée dans une contribution d'Amicus Curiae d'ONG internationales qui vont se rallier à l'affaire pour soutenir les requérants. Et les Amicus Curiae, en l'occurrence, c'était Human Rights Watch et le Centre d'études pour la justice et le droit international. Et donc, je vais vous lire un passage qui, à mon sens, montre bien cette remise en question de la théorie des deux démons. Je cite... Seule une enquête judiciaire approfondie et la divulgation complète de la vérité peuvent en partie réparer la stigmatisation et le blâme que la société inflige aux disparus en leur imputant de façon injuste et malveillante des activités suspectes et en insinuant qu'ils auraient mérité un tel sort. Donc vous voyez comment ce passage critique en filigrane l'assimilation des disparus à des terroristes subversifs. Une autre conséquence de la dimension collective de ce droit à la vérité qui serait construit comme appartenant à toute la société, c'est qu'à partir d'un cas singulier, cette requête cherche à dépasser la saisine du juge au cas par cas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'éclaircissement du sort de leur fille qui est demandé, mais aussi celui de tous les disparus qui sont détenus dans les mêmes centres clandestins. Et donc, autrement dit, la vérité judiciaire demandée par les requérants n'a pas que des effets relatifs, mais aussi des effets généraux. Et donc on voit comment à travers cette dimension collective, la demande de vérité est construite comme une réfutation de la vérité officielle, puisqu'elle revient à demander au juge de finalement reconnaître la nature profondément criminelle de l'ancien régime. Là, la deuxième ambiguïté du recours porte sur la condamnation des responsables et l'étendue réelle de la demande de vérité. Cette ambiguïté est d'abord visible dans le choix de la juridiction, puisque les requérants choisissent de retourner devant la même juridiction qui était en charge du premier procès historique de la junte militaire et aussi d'autres procès qui concernaient des personnalités très importantes de l'ancien régime militaire. D'ailleurs, il est évident que le choix de la voie de l'enquête pénale est indissociable de la volonté d'obtenir des responsables militaires des témoignages sur leur participation dans les crimes. Troisième élément qui illustre cette ambiguïté par rapport à la condamnation des responsables, c'est que la question de la vérité sur l'identité des responsables est quand même mentionnée. Donc je recite un passage de l'Amicus Curiae. Je cite, « L'État doit mettre à la disposition des familles de victimes toute information disponible dans les registres, les archives officielles ou les dossiers qui contiennent par exemple des listes de victimes ou d'agents de l'État qui ont participé à ces événements et qui permettent leur plein éclaircissement. » Enfin, surtout, même si l'objet du recours n'est pas d'attaquer les lois d'Amnesty en soi, leur incompatibilité avec le droit international des droits de l'homme et le droit à la vérité est quand même mentionnée au passage. Bref, la vérité est peut-être une première étape que l'État doit garantir au titre de son obligation d'enquête, mais pourrait toujours servir à l'avenir, d'autant qu'il y a un certain nombre de tribunaux étrangers à ce moment-là qui commencent à exercer des poursuites contre des responsables argentins sur base de la compétence universelle. Alors, comment les juges vont se positionner par rapport à cette demande inédite de reconnaissance d'un droit à la vérité express ? En fait, on va avoir tour à tour des juges qui se saisissent puis se dessaisissent de l'affaire. Et à mon sens, cette variété de réactions du pouvoir judiciaire reflète bien le caractère ambivalent de la demande, puisque c'est pas le principe d'un droit à la vérité qui va poser problème et diviser les juges, mais bien le choix pur de la voie pénale pour l'exercer. Alors vous allez avoir dans un premier temps la majorité des juges de cette cour d'appel de Buenos Aires qui va accepter de reconnaître un droit à la vérité comme un moyen de fonder leurs compétences résiduelles. C'est-à-dire, ils vont dire que même si les lois d'Amnesty empêchent le jugement des responsables, elles n'empêchent pas pour autant la poursuite des procédures d'enquête pour satisfaire le droit à la vérité. Et ce droit à la vérité va être défini par la majorité des juges comme, je cite, « l'obligation de l'État de reconstruire le passé à travers des moyens légaux qui permettraient de découvrir la réalité de ce qui s'est passé et d'ainsi donner une réponse aux familles et à la société ». Du coup, la Cour ordonne aux forces armées la remise de registres de détention et de toute autre archive utile pour déterminer le sort des disparus. À cela, l'armée ne réagit pas. Et à l'expiration du délai, les juges vont de leur propre initiative, mais sans même être ressaisis par les requérants, ils vont réémettre un jugement pour exiger de l'armée une réponse. Et cette confrontation virtuelle entre le pouvoir judiciaire et l'armée va recevoir un retentissement médiatique important, qui va notamment aboutir, enfin contribuer au fait qu'il y a d'une part d'autres confessions de militaires qui vont avoir lieu en cascade dans la foulée de celle d'Adolfo Silingo, et surtout qui vont aboutir à ce que le lieutenant général de l'armée reconnaisse pour la première fois la responsabilité institutionnelle des forces armées dans la violation systématique des droits de l'homme. Mais dans un second temps, l'armée va quand même refuser de fournir des documents, et du coup la majorité des juges va basculer et va se rétracter.